Je vais présenter maintenant donc notre conférencier de ce soir. Il s'agit de monsieur le ministre, selon la formule consacrée, mais je préférerais aussi dire monsieur le professeur, Edmond Alfandéry, qui est actuellement président du conseil de surveillance de la Caisse nationale de prévoyance, assurance, et qui est ancien ministre de l'économie 1993-1995. Nous l'avons invité à la fois, j'en profite pour souligner un des points de notre programme, nous l'avons invité parce qu'il est à la fois donc un intellectuel et un spécialiste de sciences politiques, puisqu'il est agrégé d'économie politique, docteur d'État en sciences économiques, mais aussi parce qu'il est un praticien de l'économie, aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau de la gestion d'une grande compagnie. De manière générale, d'ailleurs, dans le cycle de conférences qui est en train de se dérouler, nous avons fait un effort tout à fait spécial pour avoir beaucoup de praticiens, dans la mesure où nous considérons que la compétence n'est pas seulement dans les universités, mais qu'elle est aussi dans les entreprises, dans les associations et dans les institutions. Donc, nous faisons cet effort pour avoir des experts qui soient à la fois des deux côtés de la barrière. Monsieur Alfandéry est né en 1943 à Avignon. Il a un parcours au départ d'universitaire, chargé de cours à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, à Paris-Dauphine, maître de conférence à Nantes, où il a été ensuite doyen de la faculté des sciences économiques. Puis il a été professeur d'économie politique à l'université de Paris 2. Il a enseigné aussi à l'étranger, puisqu'il a été professeur associé à l'université de Pittsburgh. Et puis, bien sûr, il a aussi une carrière politique. Il a été député du Maine-et-Loire. Encore une fois, il a été donc ministre de l'économie de 1993 à 1995. Je ne vais pas m'attarder sur tous les éléments de son parcours, mais je crois qu'il répond parfaitement à cette double compétence, si vous voulez, à la fois de savant et de praticien que nous avons recherché. Je mentionnerai rapidement ses publications. Avant que de lui laisser la parole, des ouvrages d'abord de sciences économiques proprement dites, les politiques de stabilisation en 1974, un cours d'analyse macroéconomique aux éditions Economica en 1976, analyse monétaire approfondie en 1978, et puis plus récemment Le Piège, 1986 chez Albin Michel, et enfin paru il y a un mois La réforme obligée chez Grasset, qui date donc du mois de mars 2000. Je lui laisse la parole pour 50 minutes pour qu'il nous parle de marché et concurrence. Merci.
Bien, merci bien, merci de cette présentation. Mesdames et messieurs, aborder un sujet comme marché et concurrence dans cette université de tous les savoirs n'est évidemment pas une chose facile, et au moins pour deux raisons. La première, c'est que ce sujet forme toute une branche de l'économie qui est enseignée sous le vocable de la microéconomie. Il a mobilisé les plus grands économistes depuis Adam Smith, y compris parmi les plus grands Ricardo, Cournot, Walras, Pareto. Et pour prendre des noms plus récents, et pour ne citer que ceux qui ont eu le prix Nobel, mais il y en a bien d'autres, George Stigler, économiste américain, Milton Friedman, économiste américain, mais des Français, Gérard Debreu, Maurice Allais, Ronald Coase, un Américain, John Hicks, un Britannique, et bien d'autres. Et donc, traiter d'un tel sujet en 50 minutes relève un peu de la mission impossible. J'ajoute que le sujet se prête, vous vous en doutez bien, volontiers au débat politique. Les marchés sont au cœur du fonctionnement de nos sociétés. Ils conditionnent la production des biens et des services, tout comme d'ailleurs leur consommation. Ils conditionnent la répartition des revenus entre les hommes. Ils conditionnent les échanges économiques entre les nations. Ils façonnent largement les conditions de vie des hommes et ils ont un rôle déterminant dans notre organisation sociale. Quoi d'étonnant dans ces conditions à ce que les hommes et les femmes déterminent souvent leur positionnement politique par le jugement qu'ils portent sur l'économie de marché? Alors, pour tenter d'éviter le piège que pose inévitablement le traitement d'un sujet aussi sensible, je vais partir de cette fameuse distinction qui a été établie par le père du grand Keynes, qui était lui aussi un économiste, John Neville Keynes, et qui a été reprise d'ailleurs par Milton Friedman dans ses essais In Positive Economics, c'est-à-dire la distinction entre l'économie positive, d'une part, c'est-à-dire ce qui, pour notre sujet, revient au fond à la description analytique des comportements des agents et la façon dont ces comportements s'imbriquent sur les marchés, ça c'est l'économie positive. Et puis l'économie normative ensuite, c'est-à-dire l'usage qui peut être fait de cet outil pour que chacun puisse faire son propre jugement sur la façon dont fonctionne l'économie de marché. Et enfin, John Neville Keynes nous dit que l'économie est un art, c'est-à-dire, comme le fait l'artisan, l'économiste, c'est au fond lui aussi un artisan plus ou moins habile à utiliser les outils à sa disposition, c'est l'utilisation de ce puissant instrument que sont les mécanismes des prix pour mieux comprendre les phénomènes réels et pour aider ainsi à la décision. Et donc, si vous le voulez bien, on va d'abord voir de façon objective et évidemment très simplifiée comment fonctionnent les marchés, c'est-à-dire je vais faire avec vous un exercice d'économie positive. Alors qu'est-ce qu'un marché ? Un marché, c'est tout simplement un point de rencontre entre des acheteurs et des vendeurs d'un même bien. Et il y a évidemment une multitude de marchés qui sont différents, depuis le marché de la place du village jusqu'au marché virtuel par Internet, en passant par des marchés qui peuvent être extrêmement sophistiqués, notamment des marchés à terme sur les matières premières ou sur les produits financiers. Et le phénomène de mondialisation auquel on assiste s'analyse comme, en définitive, une extension géographique des marchés, tant pour les vendeurs, qui sont de plus en plus nombreux à chercher des clients à travers la planète, que pour les acheteurs, qui parviennent notamment par des procédés nouveaux comme Internet. Alors, pour analyser les marchés, les économistes, depuis Adam Smith, utilisent des instruments et des méthodes qui se sont d'ailleurs sophistiquées au fil des ans, qui se fondent sur l'analyse du comportement des agents qu'on considère comme rationnels. Et la rationalité dans cette affaire est définie de manière qui peut paraître choquante, c'est tout simplement la défense de son propre intérêt. Mais sur un marché, eh bien, il y a des agents qui offrent le produit en question et puis il y en a d'autres qui en demandent. Et le prix d'équilibre est atteint lorsque l'offre, c'est-à-dire les quantités offertes à ce prix, est égale à la demande, c'est-à-dire les quantités demandées à ce prix. Alors, évidemment, rien n'interdit à ce que les échanges du bien en question se fassent hors marché, par un accord entre l'acheteur et le vendeur à un prix qui est convenu entre eux. Et ça peut d'ailleurs se faire. Mais si le marché introduit la concurrence, alors on ne voit pas pourquoi l'acheteur rationnel, qui pourrait payer le même bien à un prix moindre auprès d'un autre fournisseur, se priverait de le faire puisque la somme qu'il économiserait ainsi pourrait être employée à d'autres usages. D'où la rationalité du comportement qui consiste à utiliser le marché pour lui plutôt que de chercher un autre acheteur hors marché. Quant au vendeur qui se plie au prix du marché, il a lui-même la garantie que par rapport à l'échange en dehors du marché, il ne vend pas au-dessous du marché, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une perte par rapport à ce qu'il recevrait s'il vendait son bien à un autre acquéreur. Et donc les agents qui agissent sur le marché sont rationnels et le marché les gratifie car il permet à ceux qui auraient accepté d'acheter plus cher que le prix du marché de réaliser ce que les économistes appellent un surplus, c'est ce que les économistes appellent le surplus du consommateur, c'est la différence entre ce que vous accepteriez de payer hors marché et ce que vous payez sur le marché, c'est le surplus du consommateur. Et quant au vendeur qui aurait lui accepté de vendre moins cher que le prix du marché, le marché lui permet lui aussi de réaliser un surplus. C'est la différence entre le prix auquel il aurait finalement accepté hors marché de vendre son bien et le prix qu'il trouve sur le marché, c'est le surplus du producteur. Alors revenons maintenant à la formation du prix sur le marché du bien. Et tout débute par l'équilibre. Il y a, et je suis obligé, comme tous les économistes qui se réfèrent à la théorie de l'équilibre sur le marché, de partir de cet instrument de base qui est la loi de l'offre et de la demande. Les économistes mettent en abscisse les quantités et en ordonnée les prix. Et la demande, les quantités demandées, est une courbe décroissante avec le prix. Cela signifie tout simplement que lorsque le prix du bien augmente, les quantités qui sont demandées sur le marché diminuent. Ou quand le prix du bien diminue, les quantités qui sont demandées sur le marché augmentent. Quant à l'offre, c'est-à-dire les quantités offertes, eh bien, elles augmentent lorsque le prix du bien augmente. C'est-à-dire tout simplement que si le prix augmente, les quantités du bien qui seront offertes par l'agent vont augmenter. À l'intersection de ces deux courbes, eh bien, se forment tout simplement à la fois les quantités échangées et le prix d'équilibre. Voilà l'instrument de base de toute la théorie l'équilibre sur les marchés. Et le prix qui se forme à l'équilibre est en situation de ce qu'on appelle, dans ce cas-là, d'un équilibre stable. Parce que si pour une raison quelconque, les producteurs cherchaient à vendre plus cher que le prix d'équilibre du marché, supposons que le prix, pour une raison quelconque, passe de P à P1, eh bien à ce moment-là, vous voyez sur cette courbe que les quantités offertes par les vendeurs sont supérieures aux quantités demandées par les demandeurs, les consommateurs, il y a ce qu'on appelle sur le marché un excès d'offres. C'est-à-dire que l'offre étant supérieure à la demande, eh bien, vous aurez automatiquement une force qui va agir spontanément sur le marché pour ramener à la position d'équilibre. Et si vous aviez un prix sur le marché qui, pour une raison quelconque, se déplaçait en dessous de la position d'équilibre, ici par exemple, vous auriez une demande, vous la voyez ici, qui est supérieure à l'offre, vous avez un excès de demande, et cet excès de demande pousse spontanément les forces du marché, pousse spontanément le prix vers le haut jusqu'à réatteindre sa position d'équilibre. Alors les courbes, et c'est pour cela qu'on parle naturellement d'un équilibre stable. Alors les courbes naturellement d'offre et de demande ont fait l'objet d'études extrêmement attentives par les économistes, parce qu'il est évident que c'est par la forme de ces courbes d'offre et de demande que s'établissent les équilibres sur les marchés. Alors les quantités demandées. Les quantités demandées d'abord, c'est-à-dire celles qui forment la courbe de demande, eh bien, les quantités demandées d'un bien à un moment donné sont la somme, naturellement, des quantités désirées de ce bien, des quantités demandées de ce bien par tous ceux qui s'intéressent à l'achat de ce bien sur ce marché. C'est donc, en fait, une courbe hypothétique. Les économistes appellent cela une courbe ex ante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, en réalité, elle n'a pas de réalité. Le seul point que nous connaissons dans la réalité, c'est le point d'équilibre. Pour constituer cette courbe, eh bien, il faut en définitive interroger hypothétiquement les consommateurs et savoir à chaque niveau de prix quelles sont les quantités qui seraient demandées pour ce prix-là par chaque agent. Alors, deux remarques à ce niveau s'imposent. Deux remarques qui sont les plus importantes parmi les nombreux problèmes, naturellement, que posent les courbes de demande. D'abord, toutes les courbes de demande sont décroissantes. On n'a pas trouvé d'exception. On a bien essayé, il y a eu le paradoxe de Giffen notamment, mais il n'y a pas d'exception. Certes, il faut noter que les courbes de demande ont une seule variable, c'est le prix du bien. Tout ce qui peut influencer la demande par ailleurs, par exemple le revenu de l'agent ou les prix des autres biens qui peuvent influencer les quantités demandées, sont considérés naturellement, toutes ces variables sont considérées comme des paramètres constants. Ce sont ce que les économistes appellent des conditions ceteris paribus. Ensuite, deuxième caractéristique sur laquelle je voudrais insister, la pente de la courbe est importante. La pente de la courbe est importante parce qu'elle exprime, l'élasticité. Si vous avez une courbe de demande qui est très pentue, ça veut dire que lorsqu'il y a une faible variation, une faible baisse des prix, ou une forte baisse, il faut une forte baisse des prix pour entraîner une faible variation, augmentation des quantités. On dit que la demande est inélastique. Et vous voyez que plus la pente est faible, plus la courbe, la demande est élastique. Alors maintenant, quelques mots sur les courbes d'offres. C'est plus compliqué. La courbe d'offres est évidemment construite exactement de la même façon que la courbe de demande, en agrégeant les comportements des entreprises, avec une pente qui exprime, elle aussi, l'élasticité de l'offre par rapport au prix. Par exemple, une offre totalement inélastique, prenons par exemple des terrains, pour construire ou pour je ne sais quoi, des terrains à un endroit donné, ont une offre totalement inélastique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la quantité. Une offre totalement inélastique se présente tout simplement comme une droite verticale. Et naturellement, l'offre est d'autant plus élastique que sa pente est faible. Quant au comportement des entreprises qui expliquent les quantités offertes du bien par chacune d'entre elles, ils se fondent, et ça c'est important, et je voudrais en dire quelques mots parce que c'est le fondement de la théorie des prix et des mécanismes de marché, ils se fondent sur le comportement de la maximisation du profit que l'entreprise escompte à chaque niveau de prix. Alors pourquoi ce critère? Certains peuvent penser que c'est un peu curieux de fonder le comportement de rationalisation des entreprises sur la maximisation du profit, mais c'est ainsi dans tous les modèles. C'est ainsi que l'on élabore les courbes d'offres. Eh bien, parce que l'essence même d'une économie de marché, c'est de laisser le soin aux hommes d'investir dans les activités qui sont les plus rentables pour eux. Et dès lors qu'ils ont choisi de produire un bien, eh bien, ils s'efforcent évidemment d'en tirer le profit le plus élevé. Alors, lorsqu'il s'agit de déterminer le niveau des quantités offertes à un prix donné, eh bien, la théorie de la maximisation du profit veut que la décision soit prise à la marge. Alors pourquoi? Je crois que c'est important de l'expliquer parce que c'est ainsi que sont faites les courbes d'offres. Par le raisonnement simple suivant, et je vais vous demander un tout petit peu plus d'attention, bien que ce ne soit que du raisonnement très élémentaire. Partons d'une quantité produite Q. Et supposons que, en produisant une unité de plus, c'est-à-dire en passant à une production du bien Q plus 1, le producteur retire une recette supplémentaire par la production de ce bien supplémentaire, il retire une recette supplémentaire de 100. Mais supposons qu'en produisant ce bien supplémentaire, son coût de production augmente de 70. Eh bien, ça signifie qu'il a évidemment intérêt à produire cette unité supplémentaire parce que son profit va être augmenté de la différence entre la recette supplémentaire et le coût supplémentaire, c'est-à-dire en réalité de 100, de 30. Mais Donc il a intérêt à produire cette unité supplémentaire puisque la recette supplémentaire qu'il tire va être supérieure au coût supplémentaire qu'il en retire. Passons maintenant à une unité supplémentaire, c'est-à-dire il produit non plus Q plus 1, mais Q plus 2. Et supposons qu'il retire une recette supplémentaire de 100, en d'autres termes, ça signifie que le prix du bien supplémentaire qu'il vend, il le vend toujours au même prix qui est de 100, donc il va tirer une recette supplémentaire de 100. En d'autres termes, il considère il est dans un marché dont il n'influence pas le prix. Et en revanche, supposons que le coût supplémentaire, cette fois-ci, passe de 70 à 100. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez qu'il se trouve dans une situation où, en ayant produit unité supplémentaire, en étant passé de Q plus 1 à Q plus 2, le profit supplémentaire est nul. Et supposons maintenant qu'on passe, que le producteur décide de produire une unité supplémentaire, de passer à Q plus 3. Et que là encore, il ait une recette supplémentaire de 100, tout simplement parce que l'unité supplémentaire qu'il produit va lui être vendue toujours au prix unitaire de 100, mais que le coût supplémentaire de cette unité n'est plus de 100, mais de 120. Vous voyez que j'ai augmenté chaque fois le coût supplémentaire, et je dirai quelques mots, la raison, dans un instant. Eh bien, vous voyez que cette fois-ci, le profit supplémentaire qu'il va faire, il n'est plus positif, il n'est plus nul, il est négatif. Donc, le profit diminue à partir de Q plus 3. Il augmente à Q plus 1, il diminue à Q plus 3, il est maximum, évidemment, à Q plus 2. Donc, voilà le montant qui maximise le profit du producteur, et c'est ce montant qu'il choisira naturellement de produire pour maximiser son profit. Alors naturellement, ceci suppose, et vous le voyez bien, que le coût marginal, le coût supplémentaire, qu'on appelle le coût marginal, qui n'est pas forcément le coût de la dernière unité produite, c'est le coût, c'est la différence entre le coût total de Q plus 1 et le coût total pour AQ. Eh bien, le coût marginal augmente, vous voyez, quand il produit Q plus 1, quand il produit Q plus 2, quand il produit Q plus 3. C'est-à-dire qu'on est dans un cas de coût marginal croissant, c'est-à-dire en réalité dans une production qu'on appelle une production de rendement marginal décroissant. En d'autres termes, chaque fois que le producteur produit une unité de plus, il doit utiliser une part croissante du facteur de production, ce qui explique qu'en permanence, il voit ses coûts marginaux augmenter. Eh bien, cette loi des rendements marginaux décroissants, et donc des coûts marginaux croissants, est une des lois les plus importantes de l'économie politique. Elle a été découverte il y a bien longtemps, puisqu'elle a été découverte par Malthus et que Ricardo l'a utilisée de façon célèbre. Et elle est importante, et je l'ai rappelé, je l'ai présenté sous forme extrêmement simple, mais qui est incontestable. Elle est évidemment le fondement de la forme des courbes d'offres, qui sont aussi, en concurrence pure et parfaite, les courbes de coût marginal, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors la courbe d'offres soulève deux questions qui sont au moins délicates et sur lesquelles, lorsqu'on se penche sur le problème de la formation des prix, mérite d'être évoquées. La première, c'est celle du coût des facteurs de production, notamment du travail. On vient de voir que la rémunération des facteurs de production dépendait notamment du comportement des entreprises qui offrent le bien que ces facteurs servent à produire. Et donc, c'est le rôle de la théorie de la répartition, en anglais « distribution theory », que de rechercher les règles qui président à partir des mécanismes de marché à la formation des revenus et notamment des salaires. Et cette science est évidemment très ancienne et très complexe. Elle remonte à Adam Smith et elle a fait l'objet des théories des plus grands économistes, pour en citer quelques-uns, Ricardo évidemment, Keynes et plus près de nous, Hicks. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Et elle fait appel, évidemment, à la théorie des prix, ou comme c'est le cas de Keynes, elle la récuse, j'en dirai un mot tout à l'heure. Je voudrais dire ensuite un mot sur la notion de coût, car celle-ci fait souvent l'objet de contresens de la part des non-économistes. Les économistes ne sont pas des comptables. Rien contre les comptables, les économistes n'ont rien contre les comptables, on a besoin de comptables. Mais les économistes n'évaluent pas les coûts par la somme des coûts historiques de production. Évaluer ainsi la valeur peut aboutir d'ailleurs à de graves déconvenues lorsqu'on raisonne en termes économiques. Ce n'est pas parce que la production d'un même bien a coûté 10 francs à Pierre et 20 francs à Paul que la valeur de ce même bien sera différente. Alors un exemple très instructif, un exemple dans la vie concrète. Si vous envisagez d'investir vos économies, prenons 200 000 francs, dans une activité nouvelle, et que ces économies, vous apportez vous-même cette somme, eh bien, vous ne l'incluez pas dans les coûts dits historiques, qui servent à évaluer ce que représentent les apports pour la production du bien que vous avez choisi de produire. Or, cette somme, si elle était placée, par exemple, disons à 5%, eh bien, elle rapporterait 10 000 francs par an. Eh bien, le coût alternatif, ce qu'on appelle le coût alternatif de cette somme, doit être de toute évidence comptabilisé dans le coût de votre nouvelle activité. Aussi, le véritable coût d'un facteur de production pour les économistes, c'est ce coût d'opportunité ou coût alternatif, c'est-à-dire le montant maximum que ce facteur de production peut produire par ailleurs. Et nous aurons l'occasion de donner un exemple tout à l'heure pour montrer l'utilisation qui peut être faite de ce concept de coût alternatif. Autre problème concernant les coûts. Qui les supporte ? Si celui qui produit et qui vend supporte ces coûts, alors on parle de coûts privés. Mais certains coûts ne sont pas supportés par celui qui produit et qui vend. Ils sont supportés par la collectivité, ce sont des coûts sociaux. La pollution est un coût social. Et on parle alors aussi d'un autre terme qu'on appelle externalité négative. Mais, en sens contraire, si une entreprise, par son activité, qui a par exemple des retombées technologiques qui profitent à d'autres, procure donc cet avantage à la collectivité, on parle alors d'externalité positive. Comment traiter ces externalités que le marché ne prend pas spontanément en charge ? Nous en dirons un mot tout à l'heure. C'est un vrai problème de la théorie des prix. Muni de cet instrument très rudimentaire, et je l'ai présenté de façon très rudimentaire, qui est l'offre et la demande, je voudrais examiner maintenant les divers types de marchés qui peuvent exister. Il y a au fond, en économie, lorsqu'on étudie la théorie des marchés, deux modèles extrêmes. Il y a d'un côté la concurrence pure et parfaite, de l'autre le monopole, et entre les deux, ce qui est d'ailleurs plus près de la réalité, ce qu'on appelle la concurrence imparfaite. Alors, un mot sur la concurrence pure et parfaite. Le paradigme de la concurrence pure et parfaite repose sur cette hypothèse qui est importante et qui finalement résume en termes relativement clairs, parce que mathématiquement imparables, ce problème de la concurrence pure et parfaite dont on pourrait à l'infini gloser. Sur les marchés en question, les marchés de concurrence pure et parfaite, tous les acheteurs, comme tous les vendeurs, accepte le prix comme il vient. Cela signifie qu'aucun acheteur ni aucun vendeur n'est assez influent pour pouvoir modifier le prix du marché. C'est la raison pour laquelle on parle, dans ce cas-là, de concurrence atomistique. C'est-à-dire que, si vous voulez, les demandeurs sur le marché voient l'offre, en réalité, comme une droite horizontale. Et de la même façon, les offreurs sur le marché voit la demande sur le marché de concurrence pure et parfaite comme une droite horizontale. Il est assez futile de chercher les conditions pour que cette concurrence pure et parfaite existe et de tenter de les réfuter. Car la concurrence pure et parfaite est évidemment un modèle de référence. En effet, lorsque les marchés fonctionnent ainsi, dans le cadre de l'équilibre général qui a été mis au point par un Français, Léon Valras, c'est-à-dire en prenant en compte toutes les interactions des marchés les uns sur les autres, alors les agents économiques, producteurs et consommateurs sont dans une situation telle que globalement, il n'y en a pas de meilleur pour eux. Alors à l'opposé se trouve le monopole. Celui-ci se définit comme la situation dans laquelle il y a un vendeur qui contrôle la production et la vente du bien concerné. Et il est facile de montrer que si le monopoleur peut agir à sa guise, alors le consommateur est moins bien servi que si le bien en question était produit par des entreprises en situation de concurrence. Alors, contrairement à la concurrence parfaite, où le producteur doit accepter le prix tel qu'il est, ici, le monopoleur vend les quantités demandées au prix qu'il fixe. Si, par exemple, la courbe de demande se présente sous cette forme décroissante d'une droite simple, eh bien, si le monopoleur fixe cette quantité de production, il sait que il sait tout simplement qu'il aura une demande qui sera à ce niveau, et donc il sait à peu près le prix. Il faudra naturellement qu'il fasse une hypothèse sur l'élasticité de la courbe de demande, qui est extrêmement importante en situation de monopole, mais il sait à peu près le prix auquel il vendra. Et si il produit plus, il sait que naturellement le prix sera inférieur et la baisse du prix dépendra évidemment de l'élasticité de la courbe de demande. Et donc le monopoleur peut agir à sa guise sur les prix et les quantités pour maximiser son profit, parce que lui aussi va chercher à maximiser son profit. Il le fera lui aussi au point où sa recette marginale est égale à son coût marginal, parce qu'il n'y a pas de raison, évidemment, que la règle que j'ai expliquée tout à l'heure, la maximisation du profit à l'égalité entre la recette marginale et le coût marginal, ne s'applique pas au monopoleur. Mais la courbe de recette marginale ne s'identifie plus à la droite horizontale des prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le cas de la concurrence pure et parfaite. C'est une courbe décroissante au-dessous de la courbe de demande. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur ce point, parce que ce serait vous demander un peu trop. Alors, pourquoi ? En deux mots, en concurrence pure et parfaite, la recette marginale pour unité supplémentaire produite, c'était tout simplement le prix du bien, puisque le prix est supposé constant en concurrence pure et parfaite pour le vendeur. Mais là, elle est inférieure au prix du bien, car lorsque le monopoleur produit une quantité d'une unité de plus, alors le monopoleur, vous le voyez bien, il fait baisser le prix. Et donc, si par exemple il passe de Q à Q plus 1, le prix, contrairement à la situation de concurrence, baisse, son prix passe de P à P'. Et naturellement, la recette marginale qui est obtenue en multipliant les nouvelles quantités par le nouveau prix et en déduisant les quantités précédentes par le prix précédent, eh bien, la recette marginale diminue, la recette marginale est inférieure au prix. Et donc, vous voyez que la courbe de recette marginale est au-dessous de la courbe de demande. Si nous avons une courbe de coût marginal, qui, elle, en tout cas à court terme, est croissante, les quantités produites qui maximise le profit sont à l'intersection de la courbe de coût marginal et la courbe de recette marginale, ce qui va déterminer les quantités produites, mais le prix n'est pas à l'intersection de la courbe de recette marginale, de la courbe de coût marginal, mais il est à l'intersection, naturellement, de la courbe de demande. Et donc, qu'est-ce que vous constatez ? Eh bien, vous constatez que par rapport à une situation dans laquelle nous aurions des entreprises en concurrence pure et parfaite, telles que, par exemple, la somme de leur courbe de coût marginal soit celle du monopoleur, c'est-à-dire s'identifie à la courbe CM qui est ici. Eh bien, vous constatez que le monopoleur maximise son profit à une quantité, à un niveau de production qui est inférieur à la quantité en situation de concurrence pure et parfaite. Et d'autre part, il va obtenir un prix sur le marché par les consommateurs qui est évidemment supérieur au prix qui serait celui de la concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire que le consommateur est doublement pénalisé par la situation de concurrence par rapport à, la situation de monopole par rapport à la situation de concurrence, d'une part parce que les quantités qui lui sont offertes sont inférieures, et d'autre part parce que les prix sont supérieurs. Et vous voyez donc que, naturellement, les situations de monopole, depuis que la théorie des marchés mis au point cette technique qui est ancienne et qui est due d'ailleurs à un très grand économiste mathématicien français du 19e siècle qui s'appelle Cournot, eh bien, vous voyez bien qu'il y a une logique à contrôler les monopoles et à empêcher de les laisser faire sur les marchés ce qu'ils souhaitent, car cela est contraire évidemment à l'intérêt des consommateurs. Alors, entre ces deux extrêmes se trouve la concurrence imparfaite. Elle se caractérise par deux grandeurs, le nombre des vendeurs et la différenciation du produit vendu. Dans le premier cas, on parle d'oligopole sur le marché du produit, c'est-à-dire qu'un petit nombre d'entreprises se partagent le marché, parfois deux. C'est dans le cas, dans ce cas-là, on parle de duopole. Le marché du pétrole fonctionne comme un oligopole. Dans ce cas, on démontre que les entreprises ont intérêt à coopérer pour se partager le marché, mais il est difficile de maintenir la cohésion du groupe dès lors qu'un seul producteur peut espérer tirer profit d'un accord collectif en le rompant, et ce qui enlève tout intérêt pour les autres à maintenir ce cartel. Donc l'oligopole est une situation, le cartel est une situation fragile. Dans le deuxième cas, sur un marché donné, chaque entreprise vend un produit qui lui est propre. Mais d'autres entreprises qui vendent des biens comparables s'adressent au même client. C'est le cas, par exemple, des produits de marque. Des produits, si vous avez des réfrigérateurs, des marques différentes, ils peuvent avoir des prix légèrement différents, mais ils s'adressent quand même au même client. Et dans ce cas, les entreprises fonctionnent selon des règles qui s'apparentent les unes à des situations de monopole et d'autres à la concurrence. À long terme, qui est défini comme le temps nécessaire pour que de nouvelles entreprises entrent sur le marché tant qu'il y a des profits à faire, alors on démontre que les quantités produites sont inférieures à celles qui seraient produites en concurrence parfaite, et le prix est supérieur au prix de concurrence parfaite. Là encore, on est dans une situation qui est sous-optimale par rapport à la concurrence pure et parfaite. Alors voilà quelques outils dont je vais essayer avec vous de voir l'usage qu'on peut en faire. Le premier usage est d'ordre normatif. En effet, tout le monde connaît la fameuse image du père de l'économie politique, Adam Smith, celle d'une main invisible qui aboutit à ce que les hommes, en poursuivant chacun leur propre intérêt, je cite Adam Smith, ou quasiment le texte d'Adam Smith, encore qu'il ne l'a pas présenté exactement sous ces termes, mais cela revient à ça, finissent, sans que ce soit d'ailleurs leur intention, dit-il, à promouvoir l'intérêt de la société tout entière. Et c'est vrai que le mécanisme des prix est une formidable machine qui permet d'assurer tous les jours des millions, je pourrais même dire des centaines de millions, d'actes d'échange, la plupart, je dis la plupart, car ça n'est pas le cas de tous, sans file d'attente, sans gaspillage et sans contestation des parties prenantes à l'échange. Et ces apparentes propriétés de la concurrence ont fini par en faire un idéal social, sinon une idéologie. Et c'est ainsi qu'encore aujourd'hui, au nom de la concurrence, les ententes sont interdites, les abus de position dominante sont sanctionnés, les cartels sont pourchassés et les monopoles sont parfois nationalisées. Naturellement, un tel système ne pouvait pas manquer de détracteurs, et des deux côtés de la chaîne d'ailleurs. Il y a d'abord ceux qui considèrent que la recherche à tout prix de la concurrence pure et parfaite élimine l'aiguillon essentiel pour le dynamisme économique, qui est la recherche du profit, que l'on peut se procurer en trouvant de nouveaux produits, de nouvelles technologies, et en occupant ainsi pendant un certain temps une position, qu'on le veuille ou non, qui soit dominante. Et pour cela, c'est la position d'un professeur, du professeur Pascal Salin, la loi de la concurrence doit se limiter à autoriser chacun à pénétrer sur le marché. Et s'il doit y avoir des profits élevés à gagner, dit cette théorie, alors on trouvera bien des hommes capables de pénétrer sur le marché. Et dans cette vision inspirée d'Hayek, du grand philosophe et économiste Hayek, de la société, on attend de l'organisation libre des activités humaines la plus grande efficacité sous deux conditions, que soient strictement respectés les droits de propriété et qu'il n'y ait aucune entrave à la liberté individuelle, notamment à la liberté de pénétrer sur les marchés, y compris lorsque ceux-ci sont occupés par un monopoleur. Mais les détracteurs les plus nombreux de ce modèle de la concurrence, vous vous en doutez bien, sont dans l'autre bord. Et ils font valoir divers arguments. D'abord, il y a les déficiences des marchés. Et celles-ci appartiennent essentiellement à trois catégories. D'abord, il existe des biens qu'on appelle les biens publics, dont, au fond, la définition simple, c'est que leur usage par un consommateur n'interdit pas, n'empêche pas l'usage par les autres consommateurs. Le service rendu par la défense nationale, par exemple, est un bien public. C'est le bien public par excellence. La police est un bien public. Et il est évident que dans ces conditions, il est pratiquement impossible. Encore, on trouve toujours des astuces pour artificielles pour laisser entendre qu'on pourrait y parvenir. Mais le marché, à l'évidence, ne peut pas satisfaire ce service qui est généralement rendu par la collectivité. Il y a ensuite les externalités. J'ai tout à l'heure parlé de la pollution d'usine qui a un coût pour les autres agents non supporté par celui qui pollue. Le coût social est alors celui supporté par la collectivité, n'est pas traité par le marché et nécessite d'une manière ou d'une autre l'intervention de la collectivité. Et puis, il y a le cas de ce qu'on appelle les rendements d'échelle décroissants. Le rendement d'échelle croissant. Les rendements d'échelle croissants, c'est au fond ceci, ça n'est pas fréquent en économie, mais cela existe. Plus l'entreprise produit, plus la quantité des biens produits, lorsqu'on augmente uniformément d'une unité tous les facteurs qui sont nécessaires à la production, augmente. En d'autres termes, la production augmente plus vite que les facteurs de production nécessaires pour produire ce bien. En d'autres termes, le coût marginal de long terme qui est obtenu lorsqu'on augmente lorsque le coût total augmente avec l'augmentation de tous les facteurs de production, le coût marginal de long terme diminue, et donc le coût marginal de long terme étant inférieur à la recette marginale, le profit augmente en permanence. Les réseaux de chemin de fer, les profits ou les pertes d'ailleurs, ceux de la distribution de l'eau, sont dans ce cas, et les entreprises ont tendance à grossir en permanence, on aboutit d'ailleurs souvent à des situations de monopole naturel, ces activités doivent être régulées par le marché, car le marché, évidemment, à lui seul, ne parvient pas à les réguler. Enfin, mention spéciale doit être accordée au marché du travail. Dans la théorie néoclassique, si vous avez du chômage, c'est-à-dire un déséquilibre entre l'offre de travail par les salariés et la demande de travail par les entreprises, ça signifie tout simplement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il y a un excès d'offres de travail sur les marchés. Et normalement, le marché du travail devrait automatiquement résorber le chômage. Alors, il suffit de regarder ce qui se passe dans nos économies et de regarder ce qui se passe en France pour constater, et les économistes l'ont constaté depuis bien longtemps, que le marché du travail ne résorbe pas le déséquilibre spontanément par les mécanismes de marché. Et l'équilibre spontané est difficile à obtenir Et ce fut naturellement l'apport de Keynes, on a parlé de révolution, car ce fut bien une révolution, en tout cas dans la méthodologie, que de fournir les instruments d'analyse nouveaux, ça a été l'origine de la macroéconomie, et de proposer des politiques pour lutter contre le déséquilibre durable du marché du travail. Et d'ailleurs, à cette occasion, cela a fait apparaître beaucoup, cela a fait évoluer beaucoup l'analyse de la formation des marchés, avec les coûts de transaction, l'analyse de l'incertitude, etc. La contestation du marché de la concurrence repose aussi sur des choix normatifs. Les mécanismes de marché sont d'abord remis en cause, notamment pour la rémunération des facteurs de production, par ceux qui n'acceptent pas la répartition des revenus que les marchés engendrent spontanément, ce qu'on appelle les revenus primaires. Et c'est vrai que dans la plupart de nos économies, des politiques de redistribution des revenus sont mises en place pour corriger cette première distribution qui est opérée spontanément par les marchés. Dans un autre ordre d'idées, certains s'insurgent contre les forces naturelles du marché qui façonnent notre vie sociale, voire nationale. C'est à ce titre que la mondialisation est contestée par ceux qui estiment que les lois des marchés internationaux portent atteinte à nos spécificités culturelles et à nos marges de manœuvre nationales. Par ailleurs, certains considèrent comme choquant de voir le prix des biens dont certains sont essentiels à la vie de chacun, les loyers par exemple, se déterminer librement, sans contrôle, par la collectivité. Et c'est ce sentiment qui a inspiré des politiques de contrôle des prix, d'intervention directe sur les marchés. C'est le blocage des loyers, c'est le salaire minimum, c'est même, ça a été pendant longtemps, le contrôle des prix. D'ailleurs, beaucoup d'autres réglementations influent indirectement sur la formation des prix. Par exemple, pour les prix des terrains, c'est les plans d'occupation des sols qui sont élaborés. Ou bien, pour le coût du travail, ce sont les lois sociales qui influent sur leur niveau. Mais il est désormais assez bien admis que les politiques d'intervention directe sur les prix ont souvent des effets pervers à long terme qui aboutissent à des résultats sociaux inverses de ceux recherchés. Meilleur exemple qui peut être apporté, c'est le blocage des loyers en France qui a dû être abandonné lorsqu'on s'est rendu compte que, à long terme, en réduisant le rendement de la construction de logements, on raréfiait l'offre de logements disponibles et on conduisait à des files d'attente et même à des inégalités sociales. Si le loyer est ici, si les quantités de logements sont en abscisse, l'offre de logements évidemment augmente avec les loyers, la demande diminue, et si vous bloquez les loyers au-dessous de l'équilibre, eh bien, vous avez, à un moment ou à un autre, un excès vous avez des demandes non satisfaites par rapport à l'équilibre, par rapport à ce que donnerait l'équilibre, et naturellement, vous avez beaucoup de files d'attente. Et cet exemple explique pourquoi nos sociétés contemporaines sont de plus en plus hésitantes à agir directement sur les prix. Elles préfèrent désormais agir soit en amont de la formation des prix, par des impôts ou des réglementations, soit en aval, par la redistribution des revenus. Enfin, le troisième type de critique est d'ordre strictement moral. C'est la fameuse métaphore du renard libre dans le poulailler libre. Le marché fait appel au principe de la concurrence entre les hommes. C'est une donnée. C'est une donnée que certains n'acceptent pas au nom de principes moraux. Et les plus aptes, évidemment, à s'adapter à ces lois sont, dans ces conditions, ceux qui réussissent le mieux. Mais la place des hommes dans la société et les mobiles qui les inspirent pour y parvenir ne correspondent pas forcément à l'échelle des valeurs que certains voudraient voir promouvoir dans nos sociétés. Encore que les règles du marché comportent aussi des règles d'éthique et de morale, et rien n'est plus caricatural que d'assimiler la loi du marché à la loi du plus fort. Certes, les partisans de l'économie de marché, qui en général ne nient pas ses imperfections, ont beau jeu d'insister sur son efficacité. Et la chute du mur de Berlin, sa généralisation d'économie de marché dans le monde, ne serait-il pas la preuve pour les partisans d'économie de marché de sa supériorité? Et puis l'économie de marché ne serait-elle pas, comme la démocratie, le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres? On le voit, le débat débouche sur le terrain politique et chacun, évidemment, en jugera et tranchera selon ses propres critères. Quittons les rivages de l'économie normative et donnons pour terminer quelques illustrations de l'usage concret qui peut être fait de cet instrument pour répondre à des problèmes concrets. Car je suis de ceux qui pensent que la théorie des prix est d'abord un instrument efficace, je dirais même extrêmement efficace, pour qui fait l'effort d'apprendre à s'en servir. Dans cette fameuse boîte à outils, comme l'a appelé une célèbre économiste britannique du milieu du XXe siècle, Mrs. Robinson, la fameuse boîte à outils des économistes, eh bien, il est sans doute cette théorie des prix, ces mécanismes de marché sont sans doute l'instrument le plus puissant, ou en tout cas l'un des plus puissants pour comprendre des phénomènes économiques qui se déroulent sous nos yeux et pour éviter des erreurs qui peuvent être lourdes de conséquences. Alors, deux exemples très concrets et très simples. D'abord, le loyer et la valeur des terrains. On entend parfois dire ceci. Plus le terrain est nécessaire à la construction d'un logement destiné à la location à un prix élevé, et plus le loyer sera élevé. En d'autres termes, on fait un calcul à partir des coûts historiques que j'ai évoqués tout à l'heure, et on se dit que finalement, si le terrain qu'on a acheté a un prix élevé, il est évident que le loyer doit s'en ressentir et le loyer doit suivre en étant plus élevé. Alors, l'économiste sait bien que la relation est exactement en sens inverse. Le loyer est déterminé, lui, par l'offre et la demande de logement sur le marché du logement à l'endroit donné. Et le terrain qui est nécessaire à la construction verra son prix déterminé par son rendement, c'est-à-dire son loyer, ou éventuellement, s'il y avait un autre usage, évidemment par cet autre usage, si cet autre usage avait une rentabilité supérieure. Et donc, c'est le loyer qui détermine le prix du terrain et non pas l'inverse. Et la meilleure preuve en est que si, pour une raison quelconque, les habitants désertaient les immeubles de la zone en question, eh bien le prix du terrain chuterait, même si on l'avait acheté à un prix très élevé. Un deuxième exemple. Le cartel du pétrole peut-il réussir à augmenter indéfiniment le prix du pétrole ? Dans les années 70, vous vous souvenez que les pays membres de l'OPEP ont réussi par deux fois à faire un bond au prix du pétrole. Et certains économistes étaient sceptiques sur sa capacité à maintenir durablement le prix à ces niveaux élevés. Et ils ont eu raison d'être sceptiques. Parce que c'est vrai que sur la longue période, le prix du pétrole a baissé, et même s'il continue à fluctuer en fonction des besoins. Aujourd'hui, avec la haute conjoncture mondiale et la demande de pétrole qui soutient les prix, ceux-ci ont augmenté. Mais il a à plusieurs reprises, depuis cette période, retrouvé son prix réel d'avant 1973, c'est-à-dire défalqué de l'évolution de la hausse du niveau général des prix. Alors la raison, eh bien tout simplement la théorie des prix nous l'enseigne. Le prix élevé a encouragé la prospection et le cartel a été dans l'impossibilité d'empêcher l'entrée sur le marché de nouveaux producteurs qui ont naturellement fait chuter les prix. Et quant aux consommateurs, ils ont réduit leur consommation. Il y a eu même des politiques d'économie d'énergie pour les y inciter. Et ceux qui ont construit des politiques sur la base d'un prix du pétrole durablement élevé n'ont pas toujours fait les choix les plus rationnels. Alors résumons-nous pour terminer cette leçon introductive. Les marchés sont-ils efficaces ? Les marchés sont-ils équitables ? Pour ce qui est de l'efficacité, si on définit ce concept comme la capacité des marchés à produire de la richesse, alors si les hommes acceptent de jouer les règles de l'économie de marché, beaucoup d'économistes pensent aujourd'hui que les marchés sont efficaces. Plus subjectif, en revanche, est le jugement qu'on peut porter sur l'économie de marché au nom de l'équité. Et je l'ai expliqué dans mon exposé. Aussi, les économistes évitent cet écueil lorsqu'ils utilisent cet instrument des mécanismes de marché pour expliquer le réel et aider à la prise de décision. Et dans ce domaine, leur apport peut être considérable, surtout dans notre pays qui a eu souvent tendance à assimiler l'utilisation d'un instrument, le mécanisme des prix, à la caution d'un système, l'économie de marché. Je vous remercie de votre attention.
Monsieur qui est en rouge, là, en haut, si vous pouvez tout à fait...
Bonjour, monsieur. Bonjour Monsieur Alfandéry. Vous avez montré combien la concurrence était bénéfique pour le consommateur. Nous avons encore en France un gros monopole qui s'appelle la distribution et la production de l'électricité. Pensez-vous que la mise en concurrence d'EDF, pour ne pas le citer, sera bénéfique aux consommateurs à la fois sur le prix, sans pour autant nuire à la sécurité des centrales nucléaires?
Oui, je vois que vous vous adressez à peu près autant à l'ancien président d'EDF qu'au professeur d'économie politique. Je pense que oui. Je suis, d'ailleurs, lorsque j'ai été président d'EDF, il m'a été donné de mettre en place la directive sur la concurrence d'électricité, et EDF est soumise à la concurrence. Je pense que oui, tout simplement parce que il suffit de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Dans les autres pays, et notamment aux États-Unis, où on a longtemps hésité, pour des raisons tenant au rendement d'échelle décroissant, on a pensé notamment que les rendements d'échelle décroissant posaient un problème. Ça pose un problème plus dans la distribution d'électricité, d'ailleurs, que dans la production d'électricité. On a longtemps hésité à introduire de la concurrence au niveau de la production d'électricité et à permettre l'utilisation des réseaux à divers producteurs en concurrence. Et puis, depuis une dizaine d'années à peu près, on a introduit de la concurrence, et en fait, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les prix ont baissé pour le consommateur, que cela a pu poser certains problèmes pour la production d'électricité pour des centrales nucléaires dont le coût marginal de production d'électricité n'était pas compétitif. D'ailleurs, il y a un certain nombre de centrales nucléaires qui ont été obligées de fermer aux États-Unis. D'autres ont bénéficié de ce qu'on appelle des subventions pour couvrir les stranded costs, c'est-à-dire les coûts échoués, les coûts qui ont été réalisés dans le passé, et lorsqu'on personne ne pensait que la concurrence pouvait être réalisée et qu'on a considéré comme devant être indemnisée pour les entreprises qui avaient fait ces investissements, et le système marche. Je ne dis pas pour autant que certains coûts échoués n'ont pas été considérables pour un certain nombre d'entreprises américaines, mais le système marche. Alors pour la France, je crois que, en tout cas pour l'instant, le coût marginal de l'électricité nucléaire est encore compétitif. Le sera-t-il éternellement? Je n'en sais rien. Nous avons fait un pari. Nous avons des centrales nucléaires qui, pour certaines d'entre elles, vont probablement encore durer pour un certain nombre d'entre elles 20-25 ans, et peut-être plus, lorsqu'on regarde la durée de vie des centrales nucléaires. Je ne suis quand même pas très inquiet. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est parce que, et ça, c'est une chance que nous avons, lorsque nous avons fait notre programme nucléaire, nous avons décidé d'amortir ces centrales nucléaires sur une période, je crois, d'une quinzaine d'années, 20 ans, 15 à 20 ans. Et en fait, elles vont durer probablement le double. Donc nous allons avoir un outil nucléaire qui aura été amorti et donc dont le fonctionnement se fera à un coût marginal qui sera parfaitement compétitif, même si le coût de production de l'électricité par des productions alternatives, notamment les cycles combinés à gaz, baisse et baisse beaucoup. Donc je ne suis pas très inquiet. C'est vrai que nous avons fait un grand pari, et c'est vrai que si l'amortissement des centrales nucléaires ne pouvait pas se faire sur une aussi longue période, et si nous avions des productions d'électricité alternatives dont le coût avait baissé beaucoup plus fortement qu'il n'a baissé, même s'il a baissé, à ce moment-là, nous pourrions nous trouver dans une situation difficile et il est probable qu'il aurait été nécessaire pour le gouvernement français de demander à Bruxelles notamment des coûts, l'indemnisation de coûts échoués, ce qui n'a pas été fait à l'époque pour les raisons que je viens d'invoquer. Donc je ne suis pas inquiet. Je pense que, la baisse du prix de l'électricité va accompagner l'arrivée de la concurrence, même si elle n'était pas nécessaire. Lorsque j'étais président EDF, je me suis employé à baisser les prix d'électricité assez fortement, même si le gouvernement ne m'y obligeait pas à l'époque. Je dirais même qu'il était plutôt résistant parce que ça baissait ses recettes fiscales. Et donc, je crois que c'est une bonne chose qui va dans le bon sens et que les économies d'échelle qui peuvent exister sur le réseau n'empêchent pas la concurrence au niveau de la production.
Monsieur, là, monsieur tout en bas.
Merci. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous nous avez absolument pas parlé de ce qui est tout de même une tendance depuis plus de 10 ans qu'on trouve au niveau mondial et qui s'accroît avec la mondialisation, qui est la stratégie des positions dominantes, qui est la stratégie de toutes les entreprises aujourd'hui et qui a permis une baisse faramineuse des prix au moins des produits industriels et là qui ne s'accorde pas tout à fait avec l'exposé que vous venez de nous faire sur l'équilibre des prix. Est-ce que par rapport donc à cette nouvelle pensée, si je puis dire, pouvez-vous nous faire le commentaire de la justification de la baisse des prix que l'on constate partout dans le monde?
Oui, vous savez, la théorie de la microéconomie s'est considérablement sophistiquée dans sa formalisation mathématique depuis quelques années. Et notamment, il y a toute une école française extrêmement brillante, dont le père est Gérard Debreu, qui a longtemps enseigné à l'université de Berkeley. Et il y a de très grands noms de l'économie mathématique en France notamment, et nous avons une école de la microéconomie mathématique en France qui est extrêmement brillante, mais elle a beaucoup formalisé de manière extrêmement sophistiquée les fonctionnements des marchés. Elle n'a pas fondamentalement modifié la façon dont aujourd'hui les économistes peuvent utiliser les mécanismes de marché pour comprendre la réalité. Il n'y a pas, depuis que le capitalisme existe, c'est-à-dire depuis un peu plus de 200 ans, de modification fondamentale dans les règles qui président à la formation des prix et aux mécanismes de marché. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe tout simplement des phénomènes de concentration pour un certain nombre d'entreprises sur lesquelles se focalise naturellement l'attention. Parce que dans une forêt, quand vous vous promenez, vous voyez d'abord les éléphants, vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'herbe, mais ce qui se passe dans l'herbe est extrêmement vivant et très important, et c'est toutes les petites entreprises qui dans le monde foisonnent et se développent probablement beaucoup plus que ne se concentrent les grandes entreprises. Mais c'est vrai qu'il y a des concentrations dans les entreprises qui s'accélèrent, c'est une évidence, et que ceci est tout simplement le fait la recherche d'économies d'échelle, de gains dans les coûts de production que permet la concentration des activités. Et donc la baisse des coûts. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les prix industriels, pour beaucoup d'entre eux, ont baissé? Tout simplement parce que les coûts ont baissé. Mais tout simplement parce que les coûts baissent. Et les coûts baissent, pourquoi les coûts baissent? Tout simplement parce que je l'ai dit, parce que leur coût marginal baisse. Et tout simplement parce que, grâce aux technologies nouvelles, grâce au progrès de la science, eh bien, on arrive progressivement à produire des biens à des prix qui sont inférieurs, à des coûts qui sont inférieurs. C'est la raison pour laquelle les coûts, beaucoup de coûts industriels ont baissé. Mais il y a aussi beaucoup de prix qui ont augmenté, notamment les prix des services, pour lesquels, évidemment, il est beaucoup plus difficile de faire baisser les prix, parce que dans les services, l'essentiel, c'est le coût du travail.
Bonsoir, monsieur Alfandéry. Sur les deux dernières années, l'inflation était, je dirais, quasi nulle, si je ne me trompe.
Oui, à peu près, oui.
Et j'aimerais savoir si on ne tend pas vers une déflation prochainement.
Ça a été une grande question que le monde s'est posée il y a environ 2 ans. D'ailleurs, du fait de la baisse des prix industriels et d'une stabilisation, voire d'une baisse d'un certain nombre de prix, beaucoup de gens s'interrogeaient pour savoir si on n'était pas dans un cycle de déflation. Et c'est vrai d'ailleurs que la hausse des prix en France, même si elle est très faible, elle est même supérieure probablement à la réalité. Pourquoi ? Parce que dans la hausse des prix, vous avez notamment, vous ne tenez pas compte de la hausse des impôts, par exemple. Et donc, je ne suis pas certain que on n'ait pas en fait une hausse des prix qui est inférieure à la réalité. Pour autant, est-ce qu'on est dans un cycle de déflation ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Personne aujourd'hui, d'ailleurs, ne l'imagine. La déflation, c'est pas seulement des prix qui sont stables ou qui sont proches de l'équilibre. C'est un phénomène cumulatif de baisse des prix. La déflation, c'est ce qu'on a connu. On a connu une grande période dans l'histoire de déflation. Ça a été la période de la crise de 1929 qui a commencé aux États-Unis et qui s'est propagée dans le monde entier. Et là, on a eu des baisses des prix, tenez-vous bien. À l'époque, c'était 20-30% pendant les 2 ou 3 ans qui ont suivi la grande crise de 1929. Et on a eu un processus cumulatif de baisse des prix. Vous savez, au Japon, certains ont pensé qu'on n'était pas très loin de ce processus cumulatif il y a encore 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, ce processus cumulatif ne pourrait se produire que dans la mesure où les responsables de la politique monétaire, mais nous sortons de la théorie des prix pour passer dans un domaine différent, où les responsables de la politique monétaire, notamment la Banque fédérale de réserve américaine, la Banque centrale européenne, ne seraient pas attentifs à pratiquer la politique monétaire qui s'impose pour éviter que ce processus cumulatif de baisse des prix ne se mette en place. Pour l'instant, personne n'imagine que nous sommes dans une situation de déflation. J'ajoute que la déflation se caractérise aussi par la récession. Il y a le processus cumulatif, c'est à la fois une baisse des prix, une baisse de la demande qui alimente la baisse des prix, et donc nous entrons dans un processus cumulatif de déflation, dépression. Or, nous ne sommes pas dans ce monde-là en ce moment, puisque l'activité économique mondiale se porte, en tout cas pour l'instant, tout à fait bien.
Encore une question là-haut, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur le ministre. Je voudrais vous poser 2 questions. Une qui vient en complément de celle qui vous a été posée tout à l'heure à propos d'EDF. La fin de la question qui vous était posée portait sur la sécurité,
oui,
engendrée par l'ouverture à la concurrence. L'exemple qui me vient à l'esprit est ce qui se passe actuellement en Angleterre avec les chemins de fer. Oui. Et la problématique pour les chemins de fer français est un peu la même aujourd'hui. Quels sont les mécanismes qui permettent, tout en ouvrant la concurrence au marché, d'assurer la qualité du service? Je veux dire par là que l'ouverture à la concurrence n'est pas forcément synonyme de qualité de service.
D'accord. Je vais répondre d'abord à cette question, puis je vous poserai votre seconde question. Je crois qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas confondre les mécanismes de la concurrence avec la loi de la jungle. Ce n'est pas parce que vous êtes en situation de concurrence que vous avez le droit de vendre n'importe quel produit à n'importe quel prix. Si vous vendez un produit médical très bon marché pour essayer de faire des profits considérables et que ce produit médical cause du tort, vous vous retrouvez en prison. Et donc, la concurrence suppose naturellement que l'on respecte des règles. Et il est tout à fait normal, et d'ailleurs c'est la règle numéro 1 qui est imposée à la gestion d'EDF, que l'on impose à cette entreprise des règles absolument strictes qui assurent et qui lui imposent les coûts correspondants, qui assurent à la population française la sécurité, je ne dirais pas totale, car la sécurité sociale n'existe pas, mais la sécurité optimale. Et EDF doit introduire cet objectif dans ses coûts, et elle n'a pas elle ne peut pas y déroger. Alors à partir de là, évidemment, elle a un problème de tarification au coût marginal et elle a un problème de savoir si, dans les conditions de sécurité optimale, elle est encore capable de produire à un prix compétitif de l'énergie électrique. Mais ça, c'est son problème. Je vous ai dit que personnellement, j'étais optimiste. J'étais optimiste pour les raisons qui tiennent à l'amortissement, à la durée d'amortissement des centrales nucléaires. Mais il y a, dans les règles d'économie de marché, je le répète, il y a des normes qui sont imposées aux producteurs et qui sont imposées par la loi, par la collectivité, et la concurrence, naturellement, fonctionne selon ces normes. C'est le cas pour la sécurité nucléaire. Vous avez une autre question ?
Oui, j'avais une autre question sur la question immédiatement précédente, auquel vous avez répondu en disant que les prix baissent parce que le coût marginal baisse dans ces grandes restructurations d'entreprise. Ne peut-on pas dire, ou voir les choses autrement, et dire que la réduction des prix auxquels on assiste provient simplement du fait de la fusion des entreprises, d'un effet d'échelle permet une économie de moyens, cette économie de moyens se traduisant par les licenciements massifs auxquels on assiste à chaque fois.
Oui, c'est vrai. Oui, ce que vous dites, oui, c'est vrai, c'est un élément, c'est pas le seul. Les prix baissent pas uniquement pour les restructurations et les fusions. Le prix baisse aussi tout simplement par des avancées technologiques. Mais oui, et c'est surtout ça. Mais c'est vrai que les fusions et les restructurations industrielles peuvent amener effectivement à des économies d'échelle, à des licenciements, ce qui fait baisser les prix. Personne ne le nie. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'économie, c'est une matière vivante. C'est-à-dire qu'il y a incontestablement tous les jours des emplois qui disparaissent. Mais l'objet, quand une économie fonctionne bien et qu'elle est dynamique, normalement, elle doit produire suffisamment de capacité pour créer des emplois dans un nombre au moins équivalent et peut-être même supérieur aux emplois qui disparaissent. Regardez l'économie américaine, pour ne citer qu'elle. Ce n'est pas forcément le modèle, et je ne le prends pas comme modèle, d'autant qu'il y a de très profonds déséquilibres dans l'économie américaine. Il n'empêche que dans l'économie américaine aujourd'hui, où le chômage est extrêmement faible, il y a des licenciements dans des millions et des millions de licenciements. Et pourtant, le chômage diminue. Ça signifie qu'il y a des millions et des millions de créations d'emplois tous les jours. Enfin, tous les jours, en tout cas régulièrement. Et donc, ça signifie que dans l'équilibre, dans la balance d'équilibre sur le marché du travail, les disparitions d'emplois sont compensées par des créations d'emplois. Je crois qu'il ne faut pas, en économie, se polariser uniquement sur un aspect d'un phénomène, mais le voir dans sa présentation globale, et c'est justement ce que permet de faire la théorie des mécanismes de marché.
Monsieur le ministre, merci.